RCF.
10h, 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
Et oui, c'est le retour de Prenez-en de la graine pour une nouvelle année supplémentaire. Votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, tout en prenant soin de la planète. Alors si justement vous venez d'une autre planète et que vous ne connaissez pas l'émission, je vais vous donner le mode d'emploi car c'est extrêmement simple. Si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez une question de jardinage, eh ben vous venez à l'antenne directement au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 ou alors vous laissez votre message par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Et pour bien démarrer l'année dans Prenez-en de la graine, je vais vous présenter une nouvelle voix dans cette émission. C'est vous, Anne-Marie Nageul-Essène, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accompagner sur RCF. Merci à l'équipe de RCF Touraine également qui vous accueille en studio ce matin. Alors vous êtes jardinière, c'est une première chose. Vous êtes également la créatrice de ce que vous appelez le potager en carré à la française. Il va falloir nous expliquer, Anne-Marie, en quoi ça consiste.
Oui, alors d'abord je voulais dire que je suis très contente d'être sur l'antenne de RCF en direct des studios à Tours qui m'accueille assez souvent pour parler du potager en carré à la française. Et je dois dire que me demander de venir sur RCF avec Melchior la veille de l'épiphanie, oui, je ne pouvais pas dire non.
C'est un signe.
Je me suis dit, c'est une étoile et c'est un signe. Voilà, c'était mon petit mot d'humour pour
ravi.
Commencer.
Merci beaucoup.
Alors, et donc, oui.
Oui, justement, alors potager en carré, alors attends, potager en carré à la française, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, alors donc c'est une méthode de culture sur laquelle je travaille depuis 25 ans maintenant. J'ai donc écrit, publié 3 ouvrages pratiques qui expliquent cette manière de cultiver, qui bouleverse toutes les façons traditionnelles de jardiner, puisque on n'organise pas les légumes ou les herbes aromatiques en rang d'oignon. On les organise dans des petits carrés, d'où le nom, le potager en carré avec un S. Et dans ma méthode, ces carrés font 40 cm de côté.
Oui.
Donc ensuite, on va organiser ces carrés en les mettant ensemble côte à côte, comme on le veut. C'est une méthode qui est extrêmement modulable. Alors, en France, il y a la mode des carrés potagers. Donc, en effet, on peut les mettre, par exemple, par 9 pour former un grand carré qui fait 1,20 m par 1,20 m. Mais on peut aussi les mettre en L, en U. Si on a un petit jardin, c'est particulièrement adapté, en effet, aux petits jardins en ville.
Voilà, le potager en carré, donc c'est vraiment, vous en êtes, on va dire, la fondatrice, la créatrice. Ça s'est développé un peu en France, d'ailleurs, Anne-Marie.
Oui, alors, l'idée en elle-même de cultiver dans des carrés, c'est un Américain qui a eu cette idée dans les années 1980.
Oui.
Vous vous rendez compte, c'était pas maintenant. Enfin,
oui.
Ça fait quand même plus de 40 ans. Donc, ça s'appelle le Square Foot Gardening. Et en fait, lui, ses carrés sont beaucoup plus petits. Donc, c'est pour ça que moi, ça s'appelle à la française, parce qu'il y a une méthode américaine. Et il fallait bien que je trouve un nom. Et donc, voilà. Et donc, il faut le féliciter d'avoir eu cette idée qui est absolument géniale.
On attend vos appels au 04 72 38 20 23, vos questions de jardinage. Et ça nous laisse le temps de faire connaissance avec vous, Anne-Marie Nageul-Essène. Comment vous êtes tombée dans la marmite du jardinage? Comment elle est venue, cette passion, chez vous?
Alors, je suis tombée dans le sens où, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai passé un CAP de cuisinier. J'ai 56 ans maintenant. Et donc, pour moi, ça a toujours été très important d'avoir des légumes de qualité à cuisiner. Et donc, vers 25-27 ans, j'ai commencé à faire mon premier potager en ligne traditionnel, qui était extrêmement chronophage. Tous les jardiniers vont le comprendre. Mmh. C'est-à-dire que bah, quand on est salarié en plus, bah, évidemment, on passe des week-ends à quatre pattes avec le seau à côté à désherber, quoi.
Oui.
Donc, quand on est passionné, c'est génial, mais... c'est vrai que c'est très chronophage et du coup vers la trentaine je suis tombée sur cette idée de faire des petits carrés et j'ai commencé à faire plein d'essais jusqu'à donc vivre en autonomie légumière à deux personnes avec seulement 12 mètres carrés de surface cultivée. Mmh. Et en temps d'entretien ces 12 mètres carrés en autonomie à deux, c'est en moyenne 3 heures par semaine de mai à novembre.
Ah oui.
Donc, c'est les mois les plus forts. Hein. Mmh. Donc, je pense que voilà, s'il y a des jardiniers, évidemment, qui écoutent votre belle émission, ils vont vraiment comprendre à quel point c'est beaucoup moins chronophage et pénible qu'un potager en ligne.
Ben voilà, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir ce matin, Anne-Marie Najeulessen. Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole pour venir poser toutes vos questions de jardinage à Anne-Marie, justement, qui y répondra ce matin au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Alors là, on est début janvier. Vous êtes pas très loin de Tours, vous êtes à Chinon, hein, pour être exact, Anne-Marie. Comment va votre jardin en ce début janvier?
Il va très bien et moi avec, parce que c'est une période mais que j'adore dans le sens où c'est la période la plus intense pour la vie du sol. Donc le jardin est parsemé de turricules de vers de terre hein, qui, vous le savez, passent leur temps à venir des profondeurs, à remonter jusqu'à la surface pour manger la matière organique. Et quand ils font demi-tour, ils rejettent des petites crottes qu'on appelle des turricules.
Oui.
Donc ça, c'est un signe de la bonne santé du sol du jardin. Et en ce moment aussi, j'ai presque encore une vingtaine de légumes différents qui sont en culture et que je récolte.
Donc c'est pas fini, on va dire. Vous n'êtes pas dans une période totalement vide au niveau du jardinage.
Ah non, absolument pas. Alors, d'un point de vue travaux, entretien, c'est beaucoup plus paisible, c'est sûr, en ce moment. Néanmoins, dans les parties où je n'avais pas eu le temps de le faire, je continue d'amener de la matière organique, du compost hein, ou du fumier d'âne composté, parce qu'on a la chance. Donc nous, moi, j'interviens au nom d'une association. Hein.
Oui.
À Chinon, c'est une association qui présente le potager en carré à la française. Et nous avons adopté des animaux, dont un mouton et un âne. Et l'âne nous fait de magnifiques crottins qui font un compost formidable. Mmh. Et donc, j'entretiens aussi les mulches, c'est-à-dire les couvertures de sol, les paillis. Donc, nous, on fait de l'agroécologie et le terme mulch, qui veut dire paillis en anglais, est le terme couramment utilisé. Donc, en ce moment, comme l'hiver quand même est assez doux,
oui,
et très humide, les mulches s'intègrent très rapidement, de par l'activité aussi intense du sol. Donc, je régénère ces mulches de façon à ce que le sol soit tout le temps couvert. Et voilà, taille de haie, broyage, mulchage, enfin il y a plein de choses à faire pour profiter des belles journées quand même qu'on a ensoleillées.
Voilà, donc on ne s'ennuie pas au jardin, avec peut-être quand même quelques petites choses qu'on peut faire, hein, même si, alors ça dépend de la région, bien sûr, ça dépend de la qualité de son sol, ça dépend de la température à l'extérieur. Peut-être une chose très importante, c'est de préparer son sol pour justement préparer les plantations.
Tout à fait. Alors, normalement, ça, on l'a fait à partir du mois d'octobre, novembre. Parce qu'on ne sait pas comment l'hiver va être, hein, s'il va être très froid ou pas. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ça gèle, on ne travaille plus, on ne prépare plus le sol parce que l'activité est beaucoup plus réduite. Et puis, le sol peut, dans certaines régions, être intravaillable. Moi, j'ai écrit mon premier livre quand j'étais dans la vallée de Münster, donc dans les Vosges. Et voilà, au mois de décembre, je pouvais plus rien faire parce que le sol était gelé en profondeur. Donc, normalement, globalement, c'est un travail qu'on a fait à partir du mois d'octobre, comme je le disais. Et très simplement, c'est apport de matière organique, de compost ou de fumier décomposé et pose de mulch pour l'hiver. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, je rapporte en effet quand même de la matière organique parce que l'hiver est assez doux.
Oui.
Et puis parce que voilà, il y a des endroits où j'avais pas eu le temps de le faire. Mais bon, nous, on a 4000 mètres carrés de jardin. Donc,
Ah oui, il y a de quoi faire quand même, 4000 mètres carrés.
Oui,
et vous avez tout? Vous avez essayé de planter un peu de tout? Ou ça dépend là aussi, bien sûr, de la région?
Ah non. Alors, enfin, donc, je précise bien, moi, je suis vraiment. Mon domaine, c'est le potager
oui.
et le sol.
Ah bah oui.
Donc, évidemment, on a énormément de légumes. Ma méthode du potager en carré à la française, je l'ai adaptée à 100 cultures. Donc, il faut comprendre que ça va être à la fois des légumes, des herbes aromatiques et aussi des fleurs comestibles. Parce qu'il est, voilà. Donc, ces 100 cultures, on les présente dans le jardin, puisque évidemment, il est ouvert à la visite. Mmh. C'est aussi un lieu de stage. Donc, il faut que les personnes puissent voir concrètement les choses.
Ce qui se passe, ouais.
Et c'est ça. Et le potager en carré à la française a une dimension de biodiversité aussi très importante. Donc, en effet, les potagers en carré sont entourés de ce qu'on appelle des corridors de biodiversité ouais. avec quantité de plantes, alors soit des petits fruitiers, des plantes ornementales. Voilà.
Et ça, c'est vraiment.
Diversité.
Et ben oui, c'est au cœur de l'émission Prenez-en de la graine. Donc, Anne-Marie Nageul-Essène, vous avez toute votre place dans cette émission, tout comme vous, au 04 72 38 20 23. On accueille justement Jean-Claude, vous êtes dans le Jura. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour. Tout d'abord, meilleurs vœux de bonne année et bonne santé à tous.
Ben, c'est gentil, avec beaucoup de jardinage, évidemment.
Oui.
Merci.
On vous écoute, Jean-Claude.
Oui. J'avais une question, moi j'ai moins de temps qu'avant pour faire des jardins, mais bon, je voulais vous poser une question par rapport à la culture des haricots nains ou les haricots ramants. Vous faites comment quand vous avez des carrés, parce que des carrés, moi je veux bien, mais bon, ça, c'est quand même compliqué là.
Ah ben, c'est une bonne question. Merci beaucoup Jean-Claude de l'avoir posé. Alors Anne-Marie, qu'est-ce qu'on peut dire à Jean-Claude?
Alors, pour répondre à Jean-Claude, il faut que je précise d'abord une chose. C'est que tout mon travail depuis 25 ans, c'est dans ces carrés qui font 40 cm, de voir comment je vais optimiser l'espace, évidemment pour obtenir des vraies récoltes. Si j'ai un légume qui ne fonctionne pas dans ma méthode, je vais le faire en potager traditionnel en ligne. Alors, je vais donner un exemple bêta, c'est les pommes de terre. Hein. Voilà, les pommes de terre, je les effeuille au tout début. Alors d'abord, dans 40 cm, un seul tubercule, on récolte pas grand-chose. Et puis, alors souvent, on met des bordures en bois autour du potager en carré, ce qui est pas indispensable d'ailleurs, mais bon, c'est un peu... on le fait souvent. Et c'est vrai que quand il a fallu que je récolte mes pommes de terre à la bêche, en fait, j'ai explosé les bordures en bois, sinon je pouvais pas récolter. Donc, par exemple, pour les haricots, pour revenir à Jean-Claude, il y a deux possibilités. Donc, soit on va faire des haricots à rame dans un seul carré de 40 cm, soit on va faire des haricots nains, et là, en fait, on va prendre deux carrés côte à côte. Et ensuite, avec ma méthode, les jardiniers utilisent des schémas qui sont dans les livres, dans lesquels je précise le nombre de plants ou le nombre de graines et les espacements. Et par exemple, pour les haricots à rame ou les haricots nains, c'est sûr que Jean-Claude, il peut avoir du mal à s'imaginer parce qu'en fait, il y a une densification des graines qui est vraiment importante. Et par exemple, pour les haricots à rame, parce que dans mes livres, je mets aussi à quelle récolte on peut s'attendre, sachant qu'après, c'est Dame Nature quand même qui choisit. Mais pour les haricots à rame dans 40 cm, on a entre 1,2 kg et 1,5 kg de haricots. Mmh.
Voilà, Jean-Claude.
C'est quand même une belle récolte.
Ça vous encourage, Jean-Claude? Ah, il n'est plus là, Jean-Claude. Ah, il a dû écouter votre réponse tranquillement, vous voyez, Anne-Marie Nageul-Essène, mais c'était important d'y revenir. Vous avez dit les haricots, je ne connaissais pas cette sorte haricot. Aram. C'est ça?
Aram.
C'est-à-dire?
Oui,
alors,
c'est ça.
Je ne connaissais pas cette expression.
Alors, les rames, c'est le nom qui est donné en jardinage oui. aux grands tuteurs sur lesquels ces haricots qui sont grimpants vont s'enrouler. Ça ressemble pas du tout à des rames, mais on pourrait innover. On peut utiliser des morceaux en bois, du noisetier, du bambou, etc. Sachant donc que les haricots à rames montent jusqu'à 2 mètres de haut.
Ah oui.
Ah ouais, c'est magnifique, c'est hyper ornemental en plus, alors qu'on a d'autres variétés qui donc s'appellent les haricots nains, et qui eux vont monter à peu près à 80 cm, donc sont beaucoup plus petits.
Et bien voilà, au moins ça aidera Jean-Claude à y voir un peu plus clair. Après Jean-Claude, je vous propose d'entendre Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour Melchior, moi c'est pour un amaryllis, j'avais un oignon qui a très bien fleuri. C'était au mois de l'hiver dernier.
Oui.
Alors, quand il a fané, j'ai mis l'oignon de côté, dans son pot, à l'abri. Et au mois de septembre, je l'ai replanté dans un pot un peu plus grand avec de la bonne terre. Et je l'ai rentré dans la maison, à la température de la maison.
Oui.
Et ça m'a fait des magnifiques feuilles. Deux grandes feuilles, mais il n'y a pas de fleurs.
Il n'y a pas de fleurs, ah oui.
Il n'y a pas la tige.
Ah ben c'est jamais simple hein, d'ailleurs d'entretenir, Anne-Marie Nageulessen, les amaryllis, on a souvent des appels en ce sens. Comment peut-on essayer d'aider Marie-Josée?
Oui, bonjour Marie-Josée. Alors, je sors un peu de ma spécialité des légumes. À vrai dire, je n'ai pas de réponse à votre question. Je pense néanmoins que vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait par rapport au sol que vous avez régénéré, le fait de l'avoir rentré en intérieur. C'est le rythme de la plante. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi elle ne fait pas son inflorescence. Mais enfin, en tout cas, elle est en bonne santé.
Si elle a les feuilles, c'est qu'elle est en bonne
Exactement.
Santé.
Exactement. Ouais. Vous l'avez transplantée, elle repart, elle vous fait deux feuilles que vous jugez être très belles. Donc, moi, je dirais patience. Peut-être qu'elle va tout d'un coup se décider à faire partir une belle inflorescence. Je suis désolée, je peux pas vous répondre plus. Sinon, n'hésitez pas à aller peut-être demander dans une jardinerie qui sera plus spécialiste que moi.
Et surtout que ça peut mettre 7 à 10 semaines hein, pour refleurir un amaryllis. Donc, bon courage Marie-Josée et j'espère que vous allez pouvoir trouver une solution. Soyez patiente et ça, c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs dans les émissions de jardinage. Le jardinage, ça demande beaucoup de patience, Anne-Marie.
Ça demande de la patience et ça demande beaucoup d'humilité parce que en fait on ne décide vraiment pas de tout. Les plantes sont des organismes vivants qui sont extrêmement réceptifs bien évidemment à la qualité du sol mais aussi à la température, aux durées des jours et de la nuit et voilà, parfois il se passe des choses qu'on ne sait pas expliquer et seule la plante sait en fait éventuellement pourquoi elle se met en dormance ou autre. On a parfois des plantes qui sont très régulières et puis qui tout d'un coup une année produisent moins. Et c'est un peu comme nous, les êtres humains, quoi. Elles ont leurs propres raisons.
Leur propre rythme aussi. Ouais.
Leur rythme, évidemment, bien sûr, et leur propre raison que notre raison, parfois, ne comprend pas.
Il est presque 10h20 sur RCF, dans Prenez-en de la graine. Vous continuez de venir à l'antenne au 04 72 38 20 23 avec vos questions de jardinage, liées notamment à votre potager. N'hésitez pas à venir à l'antenne. On accueillera Camille, d'ailleurs, dans quelques minutes. Il y a une tradition, Anne-Marie, dans cette émission, c'est d'écouter la musique aussi, bien sûr. Et je vous donne le choix entre trois chansons et vous allez devoir faire un choix, tout simplement. Une chanson de Francis Cabrel, c'est un single qu'il a sorti il y a pas très longtemps. Une chanson de Mentissa ou de Alyosha Schneider. Qu'avez-vous envie d'entendre ou de découvrir peut-être?
Cabrel.
Ah bah Cabrel, alors c'est parti, on écoute un morceau de Sicre tout de suite. Et ça vous laisse le temps de nous appeler ou avec vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23.
La belle Toulouse. épouse se réveille dans son balai d'autobus. C'est la même journée que la veille, la chaleur en plus. Quelques pigeons se poursuivent dans le ciel d'Arnaud Bernard. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. C'est un immense mystère, on est d'ici 100%. Quand on part, y'a rien à faire, on demande, on revient quand. C'est un courant magnétique ou c'est le fond de l'air, va savoir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Allez, chante, chante, ville ardente, bouge, ville noire et rouge, ville où les motivés vivent, ville où les clodes se suivent, ville fleuve, ville flamme, ville où flot et eau l'islam, ville debout, ville fière, ville qui a tout pour faire une capitale. Ici, tous les ballons sont ovales et n'importe qui dans la foule aura toujours dans sa malle un cochonnet et des boules. C'est une terre qui nous fabrique, on grandit dans son miroir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir.
À ce rythme, Anne-Marie Nageulessienne, je vous voyais un peu danser sur Francis Cabrel. C'est toujours un plaisir de l'entendre.
Hein. Ouais, vraiment, puis quelle douceur, là, ça fait du bien.
Ben voilà, et c'est un morceau de sucre et non pas un morceau de sucre, je tiens à préciser.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec une nouvelle voix que vous découvrez peut-être en vous branchant sur RCF, c'est celle d'Anne-Marie Nageulessienne, qui est jardinière et créatrice de ce qu'on appelle le potager en carré à la française. Vous êtes située à Chinon, pas très loin de Tours, où vous vous trouvez d'ailleurs actuellement en studio, dont on remercie d'ailleurs toute l'équipe. On aura un petit cadeau d'ailleurs à offrir à nos auditeurs à partir de 10h30. On n'en dit pas plus pour le moment, Anne-Marie. On garde un petit peu de surprise. Bonjour Camille.
Bonjour. Bonjour et merci pour l'émission. Merci. J'avais une question concernant le ricin. J'avais entendu parler que le ricin pouvait jouer un rôle dans le traitement de la problématique des rats, des taupes dans un jardin.
Oui.
Je connais quelqu'un qui met qui étale du tourteau de ricin sur son jardin. Et je crois qu'on peut planter, du ricin, mais je crois qu'il y a des précautions à prendre peut-être vis-à-vis de la proximité des légumes. Il faut une certaine distance ou. Parce que le ricin est quelque chose de poison. Je
crois. Ah bah oui, c'est l'huile de ricin surtout hein, qui est un poison, Camille. Alors, Anne-Marie, est-ce que ça se plante bien le ricin?
Oui, bonjour Camille. Alors en effet, hein, bien rappeler quand même que c'est une plante qui est toxique, enfin, en particulier voilà, s'il y a des enfants ou autres. Alors moi, je l'avais essayé il y a très longtemps. Justement quand j'étais dans cette vallée de Master où j'étais dans des sortes un peu de jardins partagés, on va dire, et tous les jardiniers, donc on était vraiment embêtés par les mulots, etc., et on avait mis en lisière de chacune de nos parcelles du ricin, qu'on avait en effet mis à une certaine distance des cultures. On gardait bien 60 centimètres minimum, parce que ça aussi a un développement racinaire dont il faut prendre compte. Et on dit justement que ce sont ces racines qui en fait gênent les mulots ou autres. Je dois vous avouer que ça n'avait pas marché.
Ah.
Et ouais, on avait quand même, on avait quand même été envahis et du coup, je ne l'ai jamais refait. Bon, ceci dit, après, c'est une plante très ornementale qui est très belle en décoration autour du potager.
Mmh.
Et alors, il y a une chose qui est vraiment intéressante par rapport au potager en carré à la française. Et vous savez, c'est si on met ces bordures en bois ou autres matériaux autour des carrés, du coup, on rehausse le sol de 15-20 cm. Et j'en parlais dernièrement avec des personnes qui font ma méthode et qui, on se disait, mais c'est vrai qu'on n'est plus du tout embêté par les rongeurs. Et on se posait la question, je disais, moi, je comprends pas ou autre. Et en fait, cette personne, je pense, a trouvé la réponse. Les rongeurs sont dans les premiers centimètres du sol, oui. Vraiment en surface. Et en fait, comme le potager en carré est surélevé, eux, ils continuent leur trajectoire horizontalement et ils montent pas au niveau des cultures. Ça pourrait peut-être être une explication. Et c'est vrai que du coup, moi, je suis plus du tout embêtée depuis je fais ça. Ouais.
Camille, vous avez beaucoup de rongeurs dans votre jardin ?
Pas beaucoup, un petit peu quand même. Oui. Voilà, mais...
Voilà, donc après, c'est... Pardon Camille, je vous ai coupé la parole.
Non, si l'orissa avait eu un rôle, ça aurait été intéressant. Ouais.
Et essayez-le, essayez-le, voilà,
avec précaution.
Moi je sais que ça n'avait pas fonctionné.
Merci beaucoup.
Et après aussi, il faut tenir compte donc de la biodiversité aussi du jardin. Hein. Voilà, nous aussi, là, on a la chance d'être dans un environnement naturel. Oui. On a beaucoup de rapaces, donc de prédateurs.
Ah bah là, ça aide un petit peu.
Voilà, on a des renards qui traînent aussi. Normalement, tout cela peut être régulé à partir du moment, en effet, comme tout écosystème où la nature se remet en équilibre d'elle-même.
Merci Camille, en tout cas, pour votre question. En prenez-en de la graine au 04 72 38 20 23. J'en ai une et je vais vous la lire. C'est celle de Christine qui nous a laissé un mail à l'adresse direct@rcf.fr. Alors j'espère que vous allez pouvoir répondre parce qu'elle nous parle d'un hibiscus qui a plus de 20 ans en pot dans son salon, qui est près d'une baie vitrée. Pas moyen de le mettre ailleurs, nous dit Christine. Il a perdu quelques feuilles. Il y a eu un choc thermique et il continue quand même à bien fleurir, mais les boutons sont recouverts de pucerons verts. Alors là aussi, on entre dans quelque chose de compliqué. Elle a fait un premier nettoyage au savon noir dilué pour éliminer la plupart des bestioles, mais quelques-uns réapparaissent déjà. Est-ce qu'il y a un autre traitement à faire ?
Oui, alors en fait, elle a bien expliqué l'histoire de la plante. Elle a subi un choc thermique.
Ouais.
Et donc, elle est fragilisée en fait. Et la plupart du temps, hein, les insectes qu'on va considérer comme ravageurs, hein, entre guillemets, vont s'attaquer à des plantes qui sont fragiles. Donc, moi, j'aurais fait la même chose qu'elle, c'est-à-dire ces pulvérisations de savon noir. Le savon noir a pour fonction, en fait, d'envelopper l'insecte et de l'empêcher de respirer. Par contre, eh bien, j'essaierai de rebooster l'immunité naturelle de l'hibiscus, qui quand même doit bien se plaire. Hein, ça fait 20 ans qu'il est dans ce pot,
il est bien.
C'est qu'il est heureux avec sa jardinière et dans cet endroit. Donc peut-être revenir. On peut le faire, hein, y compris en pot, en surface avec du compost. Je sais pas, peut-être qu'elle fait son compost ménager avec les résidus de la cuisine ou autre, ou du compost dans le jardin. Et éventuellement, voilà, un petit apport d'engrais ou de... Alors, je ne mettrais pas du purin d'ortie parce qu'il y aurait trop de sève ensuite. Mais voilà, un engrais bien équilibré, corne broyée.
Et on va en reparler dans un instant avec vous, Anne-Marie Nagelessen. On accueillera également Stéphane et Claude dans un instant au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame.
Et avec notre jardinière du jour, c'est vous, Anne-Marie Nagelessen, créatrice de ce qu'on appelle le potager en carré à la française du côté de Chinon. Tout va bien, Anne-Marie, pour cette première ?
Oui, très, très, très bien. Elle est formidable, votre émission.
C'est grâce à vous, surtout, et grâce aux auditeurs qui nous appellent.
C'est toujours un plaisir d'échanger avec d'autres jardiniers. On est tout le temps dans le partage quand on jardine.
Et c'est pas fini, puisque Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour,
on vous écoute.
Oui, alors du coup, moi j'ai une question toute
Oui. Ah, Stéphane,
je crois que... dans mon jardin.
Vous captez pas très bien là où vous êtes, Stéphane. On a du mal à vous entendre.
Ouais, ben je suis dans le Berry, hein, donc
c'est pour ça.
C'est une réalité. ouais, je sais pas. Du coup, vous entendez?
Là, c'est bon. Là, ça fonctionne bien, Stéphane.
Bon. Oui, voilà. Donc, du coup, moi, j'ai des légumes encore dans mon jardin et c'est une joie. En revanche, comment est-ce qu'on fait pour préparer le jardin pour l'année suivante quand il y a encore des légumes dedans? Ce que je comprenais du carré à la française. Vous pouvez donner peut-être une petite aide là-dessus?
C'est une bonne question, ça, Stéphane. Merci beaucoup, Anne-Marie. C'est totalement pour vous, ça.
Oui, complètement. Bonjour, Stéphane. Alors, en effet... comme je le disais tout à l'heure, j'ai encore une vingtaine de légumes là qui sont en culture et on prépare les cultures d'automne-hiver dès l'été, hein, à partir principalement août et septembre. Donc en fait, à l'automne, comme je le disais tout à l'heure, en octobre et novembre, quand je suis venue apporter du compost ou du fumier composté, eh bien, les petits carrés qui étaient occupés par les futures cultures d'automne-hiver, j'ai quand même apporté ce compost ou ce fumier décomposé autour des cultures. Alors, à l'exception de certaines, donc en fait, on tient compte bien évidemment du besoin de la plante. Par exemple, j'avais des carottes en place ou des poireaux, voire même les premiers oignons, etc. Donc, qui demandent plutôt un sol ordinaire et non un sol humifère. Donc, dans ces petits carrés, je n'ai pas amendé. Hein, quand on apporte du compost, on appelle cela amendé. Et donc ben là, en ce moment, je continue de récolter. Donc j'ai des petits carrés qui se libèrent. Voilà, là, hier par exemple, j'ai vidé un petit carré où j'avais encore des céleri raves. Eh bien, dans ce carré libéré, j'amène du compost et je mulche en surface. Est-ce que ça répond à votre question,
Stéphane?
En partie, ça aide.
Ah.
D'un autre côté, si l'année suivante, vous ne faites pas la même culture à l'endroit, vous êtes là où il y a des oignons sur un sol pauvre, l'année suivante, on aura besoin d'un sol plus riche. Du coup, enfin, voilà,
c'est
une grande question de jardinier, je pense.
Voilà, tout à fait. Et donc, en fait, dans mes livres qui présentent la méthode, je dis quel type de sol pour chaque légume. Et il y a une partie guide pratique sur un geste à faire que tous les jardiniers connaissent. Hein. On prend un morceau de sol dans ses mains, on en fait un boudin et on essaye de voir comment il se comporte, s'il est assez humifère ou pas. Et donc là, par exemple, lorsque j'aurai récolté, allez, reprenons l'exemple des carottes, hein, et si la saison prochaine, je veux venir avec des tomates ou des aubergines, hein, évidemment, mon sol va être trop pauvre en matière organique, donc peu importe. Je fais mon test avec ce morceau de terre et je vais ramener du compost, même si c'est au mois de mars, avril, mai, juin, même juillet.
Voilà, Stéphane.
Ça répond, Stéphane?
Merci.
Vous aviez une deuxième question, je crois, rapidement?
Oui, c'est un petit peu subsidiaire, mais c'est-à-dire que j'ai deux ânes adorables,
oui,
et dont un marche beaucoup, et du coup, il mange tout ce qu'il y a. Les ânes adorent des champignons. Et je ne sais pas si vous avez la même question que moi, mais en fait, du coup, je suis blindé de chardons partout où je me dis trottin d'ânes. Voilà, c'est une petite remarque, mais je ne sais pas si vous vivez la même chose.
Ah, bah, c'est intéressant. Le crottin d'âne amène des chardons, Anne-Marie, est-ce que vous avez des preuves?
Je pense que le chardon, il va se plaire. J'en ai pas particulièrement plus parce que j'ai un âne. Je voulais demander, est-ce que vous ramassez les crottins ou est-ce que vous les laissez dans le pré?
Ah ben, je les laisse dans le pré, bien sûr.
Ouais. Donc ils vont apprécier, voilà, s'il y a un sol humifère, donc vous devez avoir un beau sol en fait, et peut-être un peu tassé à certains endroits. Par le piétinement en fait des animaux, ce qui explique en fait cette plante qui est bio-indicatrice.
Donc peut-être que laisser le crottin, ça peut amener des chardons. d'après vous, Anne-Marie, est-ce qu'il faut...
Non, pas du non. tout. Mais en fait, le chardon, alors, on a obligation, enfin nous, en campagne, de les arracher par ouais. rapport aux cultures voisines des agriculteurs. Moi, j'en laisse quand même. Mmh. On en a quelques-uns, hein. Tout simplement parce qu'ils font leurs graines qui sont très goûteuses pour un oiseau qui s'appelle le chardonneret.
Oui.
Chardon, chardonneret. C'est vraiment sa plante
favorite,
donc favorite. Non, mais c'est très bien. Au contraire, je veux dire, s'il laisse le crottin dans le pré, nous, par exemple, on est obligé de le retirer. Bon, ce qui nous permet de faire notre compost ensuite qu'on utilise au jardin, mais parce qu'on a la cohabitation entre un âne et un petit mouton.
Voilà.
Donc il faut, voilà. Sinon, donc on sort du jardinage, mais voilà, il faudrait pas que le crottin de l'âne éventuellement contamine le mouton. Mmh. Mais alors moi, du coup, à l'inverse, j'ai des prés qui souffrent de piétinement et d'un manque de régénération de la matière organique. Donc j'ai d'autres plantes bio-inducatrices qui sont moins amusantes, comme l'oxalis ou autres. Parce que, voilà, et d'ailleurs, il faudra sûrement qu'on ramène de la matière organique dans les prés au bout d'un certain temps, parce que ça s'appauvrit de trop.
Il est 10h37 dans Prenez-en de la graine, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une petite surprise pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est un livre, vous parlez d'un livre d'ailleurs depuis tout à l'heure, qui s'appelle Le potager en carré, et je vais retrouver le nom parce que je viens de le perdre, il fallait, de toute façon vous pouvez le dire, je suis désolé.
Donc c'est le potager en carré à la française, oui. évidemment, et le sous-titre c'est le jardin nourricier tout en biodiversité.
Ouais, c'est vraiment une méthode.
Oui, c'est vraiment une méthode entre guillemets, on va dire. C'est un peu, enfin c'est que il y a des personnes qui comparent à une recette de cuisine en fait. Quoi. Donc on a vraiment besoin de suivre tous ces schémas pour bien organiser les récoltes dans ces petits carrés qui font 40 cm de côté. Donc ça, c'est le cœur de mon travail et de ce que j'ai créé, inventé. Après, en effet, cette méthode, elle est vraiment holistique, elle est globale. Donc elle prend en compte, c'est indispensable, la qualité du sol. Et là, j'ai rien inventé. Hein. Je m'appuie sur des formations que j'ai suivies auprès d'agronomes, de biologistes des sols, etc. Et puis, cette méthode s'appuie sur l'accueil de la biodiversité, puisque, en effet, c'est un jardinage complètement naturel, ouais. sans aucun apport d'engrais, aucune utilisation de produits qui se terminent en seed. C'est-à-dire, on recrée un écosystème. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, il y a la préface du livre. Alors, il faut savoir que ma méthode, on m'avait demandé de venir l'enseigner au Potager du Roi à Versailles. Donc je l'ai fait en 2014 et mon dernier livre est préfacé par le directeur de l'École nationale supérieure de paysage, et il démarre sa préface, c'est très court, hein, en disant « Qui a vu le potager en carré à la française pense au philosophe Michel Foucault » et il cite « C'est la plus petite parcelle du monde et puis c'est la totalité du monde ». C'est magnifique, quoi. Mais ça illustre vraiment bien que sur une toute petite surface, on recrée un écosystème qui se régule de lui-même.
Voilà, ce livre, Le potager en carré à la française, Le jardin nourricier tout en biodiversité. On a un exemplaire à vous faire gagner. Il y aura un heureux gagnant ou une heureuse gagnante. Donc, pour tenter votre chance, vous connaissez le principe. C'est très, très simple. Vous envoyez un mail avec vos coordonnées complètes et un petit mot, si vous le souhaitez, à l'adresse direct@rcf.fr. direct@rcf.fr pour tenter de remporter un exemplaire de ce livre, Le potager en carré à la française, le jardin nourricier tout en biodiversité.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec Anne-Marie Nageulessen qui répond à toutes vos questions de jardinage ce matin au 04 72 38 20 23. On accueille Claude tout de suite. Bonjour Claude.
Oui, bonjour. Mes meilleurs voeux à tous.
C'est gentil, c'est très gentil. On vous écoute.
Je suis un peu éloigné de la radio pour éviter les interférences.
Vous avez bien fait.
Mais j'ai peut-être entendu de loin, on a parlé des carrés, mais ce sont des carrés qui font 40 sur 40, mais... La hauteur de ce carré, est-ce que c'était, on les fait en banc, on peut les faire soi-même, ou c'est simplement un carré délimité par la terre elle-même?
Bonjour Claude. Alors en fait, il y a des personnes qui font ma méthode, en effet, à même le sol.
Ah voilà, d'accord.
C'est ça. Donc, on va délimiter les petits carrés avec des branches posées sur le sol. Moi, j'utilise des bambous.
Ah oui.
Ah, voilà. C'est du jardinage en pleine terre. Donc, c'est bien pour ça que je parle d'agroécologie. Il n'y a absolument pas d'utilisation de terreau, de je ne sais quoi, du sable, de la vermiculite ou autre, ce qui est le cas dans la méthode américaine. Là, on est vraiment en pleine terre. Ah, après, voilà, on peut faire des bordures, donc on remonte à 15 ou 20 centimètres. Alors, c'est une question de confort de travail, parce que vraiment, sincèrement, le sol est moins bas. On a vraiment le dos bien droit quand on jardine. Et on va faire les bordures comme on veut. Moi, j'utilise du bois, mais j'ai rencontré des personnes très créatives qui ont fait ça en mosaïque.
Oui. Ouais.
Voilà. Bon, c'est un travail énorme, mais il y a des personnes qui ont très peu de moyens qui vont utiliser des bordures qu'on trouve en jardinerie pour mettre le long des allées.
Ah oui,
ça coûte très peu cher, vous voyez. Et puis après, on peut carrément monter en hauteur. Donc, nous, on le présente à l'association. Et puis, comme on accueille aussi des personnes à mobilité réduite, à ce moment-là, on monte carrément à 80 cm.
Ah oui.
D'accord.
Et du coup, c'est un confort de travail. C'est génial parce que c'est comme un plan de cuisine, quoi. Et là, par contre, il faut que ce soit rempli de vrai sol. Hein.
D'accord,
c'est
d'accord.
pas... avec des pieds ou autre, parce qu'il faut qu'il y ait une vie et que ce soit investi par les vers de terre, etc.
Voilà, voilà Claude.
Faut pas que ce soit isolé. Oui, d'accord, j'ai compris. Oui, bah écoutez, je vous remercie beaucoup parce que justement, là, 80 cm, ça m'arrange aussi parce que j'ai des problèmes de dos.
Eh ben voilà.
Bah écoutez, merci à vous.
Hein. À vous de jouer, Claude. Merci beaucoup pour votre appel au 04 72 38 20 23. Oui, Anne-Marie.
Oui, je vais juste préciser.
Ouais,
c'est important, c'est parce qu'apparemment il est intéressé pour les faire en hauteur.
Ah oui, il y en a pas qu'un, ouais.
Et à ce moment-là, il faut vraiment que les parois soient très solides, hein, parce qu'il y a une poussée du sol. Il faut imaginer à 80 cm, si on fait 1m20 par 1m20, on a 1m3 de sol, donc il y a une poussée de la terre sur les côtés. Donc il faut bien les renforcer ou les faire dans d'autres matériaux, je sais pas, comme de la brique ou autre, pour que ce soit vraiment bien costaud.
Voilà, de bons conseils. Merci Anne-Marie d'avoir précisé tout ça. Bonjour Marie.
C'est Marie-Sylvie.
Marie, oh ben je suis confus. Bonjour Marie-Sylvie.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Alors, je pratique la culture des potagers en carré de façon dans mon jardin, mais je rencontre deux difficultés. D'abord, l'accessibilité. Mes carrés sont le long d'une clôture, mais ceux du fond, j'arrive pas à y accéder. Je trouve que, est-ce qu'il y a une façon de disposer les carrés qui permet que ça soit accessible, parce que les carrés de 1m20 ou 2m sont divisés en 12 ou en 16 petits carrés. Et ceux du centre, on n'arrive pas tellement. Alors, comme je suis plutôt jeune, je me demandais s'il y avait une façon de disposer les carrés qui permettait d'être plus accessible. Et d'autre part, c'est pas facile non plus pour l'irrigation. Comment on peut faire passer des tuyaux de goutte à goutte, ça me pose problème. Voilà, j'aurais voulu avoir des conseils de notre spécialiste.
Vous avez frappé à la bonne porte, Marie-Sylvie. Merci beaucoup pour votre question, Anne-Marie.
Bonjour Marie-Sylvie. Alors, elles sont intéressantes vraiment vos questions. Déjà, vous avez dit que vous aviez des planches de culture hein, de 1m20 par 1m20 divisées en petits carrés. Éventuellement, il y en a 16. Donc ça, c'est la méthode américaine, hein, enfin qui a été transformée en plus en France, hein, parce que la méthode américaine, les carrés font 33 cm et en France, on les a encore réduits à 30 cm. On peut pas cultiver grand-chose là-dedans, quoi. C'est pas sérieux. Et évidemment, on peut pas le long d'un mur mettre une planche de culture de 1m20 par 1m20 parce que comme vous l'avez bien dit, on n'a plus accès au fond et du coup on perd tous les avantages en termes d'ergonomie de travail. Et donc c'est ce que je disais en introduction avec le potager en carré à la française, c'est extrêmement modulable et par exemple le long d'un mur, on va mettre des planches de culture qui ne vont pas faire plus de 80 cm de profondeur, voire qui vont ne faire que 40 cm de profondeur, de façon à tout le temps avoir accès sans se casser le dos aux carrés qui sont les plus éloignés. Alors ensuite, pour l'irrigation, alors Et en fait, si on part sur cette base avec les carrés de 40 cm regroupés ensemble, avec ma méthode, c'est pas possible de mettre du goutte à goutte.
Ah oui.
Alors, une des raisons, hein, c'est que comme les cultures se succèdent dans les carrés avec des positionnements différents, par exemple, on va avoir 12 poireaux, puis la fois suivante, on aura 5 salades, puis la fois suivante, on aura 3 céleri raves, par exemple, ça signifierait qu'il faudrait tout le temps bouger, modifier les tuyaux. C'est pas possible. Après, il y a une autre façon, parce qu'il y a deux options dans ma méthode. Il y a une autre façon où on peut faire de l'arrosage automatique, mais c'est complètement différent et malheureusement, je peux pas l'expliquer visuellement à la radio.
Ouais, c'est très compliqué.
Ouais. Voilà. Maintenant, pour moi, jardinière, le temps d'arrosage est un moment très important. Personnellement, j'adore ce moment d'arrosage. D'abord parce que, on profite de la nature et puis on est en observation. Comment le sol réagit? Est-ce que il absorbe bien l'eau ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il est tassé? Il faudrait venir un peu biner, etc. C'est aussi le moment où on va dire, ah bah tiens, il y a des pucerons. Ou bien la surprise, super, les aubergines sont à récolter. Mmh. C'est vraiment un moment de relation avec son potager qui est important à mon sens.
Voilà Marie-Sylvie.
Donc vous préconisez l'arrosage manuel?
Oui, je préconise plutôt. Voilà. Alors, il y a la mode des Zoya aussi.
Ah oui.
Ouais.
Voilà, donc je connais certaines personnes qui pratiquent ma méthode, qui en utilisent. Donc, quand c'est ça, ils monopolisent un carré de 40 cm pour installer une Zoya. Bon, moi, c'est pas du tout mon truc, les Zoya.
Bon, en tout cas, on l'entend et on le retient hein, pour Marie-Sylvie, plutôt un arrosage manuel. Merci beaucoup d'être venu à l'antenne pour poser cette question. Je vous propose d'entendre un peu de musique, hein, comme d'habitude, Anne-Marie. Alors pour le coup, c'est moi qui vais choisir avec Alyosha Schneider. Vous avez peut-être entendu cette chanson dans une pub, je ne vais pas la citer, mais elle a pas mal été diffusée pendant les vacances de Noël. On accueillera Jean-Pierre au 04 72 38 20 23 et vous continuez d'envoyer un mail pour tenter de gagner le potager en carré à la française, le jardin nourricier tout en biodiversité.
La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles. Et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble. Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant.
Alyosha Schneider, très belle voix, beaucoup de poésie dans cette chanson qui s'appelle tout simplement Ensemble.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec Anne-Marie Nageulessen, jardinière et créatrice du potager en carré à la française. Je rappelle que vous pouvez tenter de gagner un exemplaire du livre Le potager en carré à la française, Le jardin nourricier tout en biodiversité. C'est sorti aux éditions La Terre est belle il y a quelques années. Il y a vraiment beaucoup de conseils pour vous, pour mettre en place cette méthode française dans votre potager. Alors allez-y, tentez votre chance en envoyant un mail avec vos coordonnées complètes et un petit mot si vous le souhaitez à l'adresse direct@rcf. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Anne-Marie surtout et puis Melchior, c'est ça hein.
Ouais, mais c'est ça.
Merci,
oui.
Merci pour votre émission, merci aux éditeurs qui vous sont fidèles. Donc j'appelle de Vernant à côté de Saumur. Donc je connais un petit peu Anne-Marie parce que depuis 3 ans, lors d'une journée de patrimoine, nous étions allés la rencontrer et depuis j'ai adopté la méthode, et j'en suis très très satisfait. J'ai 11 carrés, hein, et puis aussi des carrés d'herbes aromatiques. Voilà. Et je confirme beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'entendais la question par rapport aux haricots rames. Je peux vous dire que je fais des haricots rames sur quelques carrés, et j'ai récolte pendant quasiment 6 semaines.
Ah oui.
Ah oui, non, mais c'est je me prends un malin plaisir quasiment tous les jours de parcourir mes carrés. Je tourne autour et l'arrosage, je réponds à la question juste avant là. Eh bien, j'arrose la plupart du temps avec un arrosoir. Ça me permet d'entretenir, de gratter, de voilà. Je prends beaucoup beaucoup de plaisir. Et pour moi, les carrés à la française, c'est quelque chose qui c'est harmonieux, c'est beau et ça me satisfait beaucoup et ça produit je dirais énormément et pour moi c'est 70 ans passés c'est beaucoup moins fatigant.
Merci hein, Jean-Pierre.
Comment?
Merci beaucoup pour votre témoignage.
J'étais un agriculteur, je vous précise, et oui. J'avais un jardin avant et j'ai rétréci mes jardins et mais 11 carrés de 1 mètre me suffisent amplement, vous voyez, pour un couple.
Eh bien, super. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir précisé tout ça.
La dernière chose, je pourrais faire que recommander le livre d'Anne-Marie que j'ai. C'est celui de carré à la française. C'est très pédagogique, c'est très bien fait, très bien illustré. C'est à la portée d'enfants. Et je le fais connaître aux écoles. Je le fais connaître. Je suis responsable aussi d'un jardin partagé.
Oui.
Et ce livre, je l'ai aussi partagé.
Et
donc, si vous ne le gagnez pas, si vous ne le gagnez pas, vous pouvez le procurer. Et je pense que vous ne ferez que des encouragements.
Et ben c'est gentil, Jean-Pierre. Merci. C'est dur de vous couper la parole, mais c'était très, très intéressant. Et comme quoi, ça fonctionne, Anne-Marie aussi. C'était un petit hommage pour vous, hein, bien sûr.
Jean-Pierre, mais mille merci, mais c'est voilà le cadeau de début d'année, votre retour, comme tant d'autres, je suis tellement heureuse de savoir que voilà vous êtes content, que ces 11 planches de culture carrées vous suffisent amplement à 2 personnes, mais vraiment mille merci et vous êtes à Saumur, n'hésitez pas à revenir à Chinon, que je puisse remettre votre visage sur votre prénom, je vous accueillerai les bras ouverts parce que vous m'avez fait un cadeau là ce matin et j'ai vraiment tous ces retours, je voudrais le dire, mes bouquins sont entre les mains de maintenant au moins 150 000 personnes.
Ah oui.
Le jardin est ouvert à la visite. C'est vrai qu'à chaque fois que je vais ouvrir le portail, comme je dis, je me suis jamais pris coup de râteau dans la figure.
Et du style mieux. Voilà.
J'ai toujours des retours très positifs.
Hein. Et ce livre, on peut tenter de le remporter ce matin dans Prenez-en de la graine en envoyant un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. Bonjour Thérèse.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour mesdames, j'aurais voulu avoir un renseignement parce qu'il y a plus de 10 ans, j'avais fait mettre nous avons mis dans le jardin des bacs en carré pour mettre les plantes aromatiques. Au départ, nous avions mis du terreau que j'avais acheté en grande surface. Et il y a 2-3 ans, on a dû planter un arbre à côté. Et puis la personne qui l'a fait, elle a tout jeté la terre dans le bac. Mais cette terre est argileuse et il pousse plein de, comment je vais dire, de char, enfin pas des plantes que j'aimerais avoir.
Oui.
Donc le persil, le cerfeuil, j'ai rien obtenu cette année. Donc je voulais savoir, parce que je pense qu'il faudrait tout vider et recommencer, mais où je jette toute cette terre qui n'est pas bonne.
Ah,
mon terrain est petit.
C'est une bonne question, ça aussi. Merci beaucoup, Thérèse, de l'avoir posée, Anne-Marie.
Oui, Thérèse, une question pour vous répondre. Est-ce que le terreau que vous aviez mis a été vidé lorsque la personne a rapporté de la terre argileuse?
Alors, il l'a remis au-dessus.
Ouais.
Alors, c'est là.
Alors, en fait, le problème, voilà, moi, je déconseille absolument les terreaux. Les terreaux ont une durée de vie limitée. C'est bien la raison pour laquelle, quand on fait des jardinières devant sa fenêtre, on est obligé de rempoter les géraniums tous les ans parce que, au bout d'un moment, le terreau perd de ses qualités et il est plus du tout appétant pour toute la vie du sol, en particulier les vers de terre, etc. Et je vous conseillerais, parce que ça m'arrive souvent dans les stages. Et donc, je sais que c'est pas marrant, mais il faudrait que vous vidiez tout cela. Et par contre, que vous récupériez votre terre, même si elle est argileuse, mais que vous repartiez sur
avec
une
de
base
terre.
De vrai sol ouais. végétal. Et cette terre argileuse, je peux vous assurer, parce que j'ai vraiment beaucoup d'expérience avec les terres argileuses, il faut que vous veniez l'amender, en effet, avec des composts ou des fumiers, et aussi, surtout, des mulches en surface qui vont vous recréer un humus, et vous allez avoir une terre magnifique dans laquelle vos herbes aromatiques vont pousser.
Eh bien, écoute, voilà ce dernier conseil de la matinée pour Thérèse. Merci Thérèse de nous avoir appelé et vraiment merci beaucoup Anne-Marie Nageulessen d'avoir été avec nous dans cette émission. J'espère que ça vous a plu.
Merci, oui, ça m'a beaucoup plu. Je remercie vraiment tous les auditeurs pour leurs questions, le magnifique témoignage que j'ai eu, qui est un vrai cadeau. Et à toutes et à tous, je vous présente mes vœux pour terminer, mes meilleurs vœux jardiniers, que cette nouvelle saison qui arrive soit pour nous vivifiante et que voilà, qu'on ait des magnifiques récoltes.
Merci beaucoup Anne-Marie. Rendez-vous sur potagerencarré.info pour en savoir beaucoup plus. Et puis vous pouvez continuer de remporter ce livre, Le potager en carré à la française, le jardin nourricier tout en biodiversité, en envoyant un mail à l'adresse direct@rcf.fr. Merci Anne-Marie, merci à l'équipe de Tours qui vous accueillait, et notamment à Eric, à Antoine, à Catherine. On se retrouve lundi, 9h-11h dans Je pense donc j'agis. Bon week-end à tous et bonne reprise.